Et bonsoir à tous, bienvenue dans Paris Central. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief de ce match PSG-Lille. Et justement, un match qui était très attendu à 4 jours du PSG-Real Sociedad de Ligue des Champions. Un match contre l'une des meilleures équipes de Ligue 1 qui nous avait posé quand même des soucis à l'aller et dont on attendait beaucoup dans le jeu et le pressing. Beaucoup de changements à 4 jours du match contre la Real Sociedad. Certains joueurs ont peut-être convaincu, d'autres non. On va en parler justement tous ensemble ce soir. Déjà pour commencer, comment vous allez, les gars?
Ça va, tranquille, toi, tonton.
Ça va, ça va.
Eh bien,
Et toi,
écoutez,
hein, comme
plutôt
d'hab,
du plaisir.
plutôt de bonne humeur, j'allais dire, après ce match du Paris Saint-Germain. Je pense être plutôt de l'avis de Régis, un supporter plutôt heureux ce soir. Et justement, on va y revenir dans les différentes parties de ce live. Et pour commencer, la première question qui me venait à l'esprit pour aborder ce live, c'était: est-ce que vous avez pensé à liker, à vous abonner pour commencer? Allez, blague à part, maintenant qu'on commence et que cette vidéo n'est sponsorisée par personne, je vous commence qu'on aborde les premiers titres de ce live. Et justement, la première grande question de ce live, eh ben, est-ce qu'on n'est pas cette saison sur le meilleur match du Paris Saint-Germain depuis l'arrivée de Bucho? Et comme d'habitude, on va faire l'ordre des caméras et c'est Milan qui s'y colle en premier.
Bah, c'est un match où on sent qu'il n'y a pas que des titulaires de base, il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont, on va dire, pas en confiance ou en méforme. Donc c'est un match surprenant, on va dire. Enfin, c'est un match surprenant dans tous les compartiments du jeu. Après, le meilleur match, j'ai pas le souvenir d'un meilleur match, mais je pense qu'on a quand même vécu mieux cette saison avec le Paris Saint-Germain. Après, si on prend depuis l'année, depuis qu'on est en 2024, je pense que oui, on est sur la meilleure performance du Paris
Je
Saint-Germain.
voulais dire saison, justement. Excuse-moi si je n'ai pas été clair. Vas-y, Soura. Je pense que Milan, à part si tu as quelque chose à rajouter. Pas
Bah,
grand-chose.
c'est une belle performance, c'est vrai que notamment on était sans Mbappé, ça c'est important de le notifier, mais c'est pas forcément surprenant de voir. C'est pas là, on m'entend là, c'est bon, parce que j'ai coupé mon
Ouais,
micro.
t'as eu un petit bug, ouais.
C'est pas très étonnant de voir le Paris Saint-Germain être meilleur sans ses joueurs stars un petit peu. On peut parler du match PSG-Real Madrid où on n'avait pas Neymar et Mbappé et on a réussi à être assez fort collectivement. Là, c'est plus dans l'état d'esprit. On a été un peu plus impressionnant. On a essayé de presser énormément, d'aller sur le contre-pressing. Le premier but, il vient d'une récupération d'Ousmane Dembélé qui va haut sur le porteur du ballon. Pareil pour Ramos et pour Randal Kolo Muani qui ont une grosse débauche d'énergie aujourd'hui. Il y a quelques choix tactiques plutôt intéressants avec le repositionnement au milieu de terrain de Marco Asensio, où il a su être plutôt à son aise et a montré ses qualités techniques, sa vision de jeu, on va dire. Donc pour le coup, c'est un match assez abouti. C'est surtout le timing qui rassure tous les supporters, je pense, parce qu'on va affronter la Real dans quelques jours. Et c'est ça le plus important, je pense.
Bah, plus que meilleur match, je sais pas, tu vois, j'ai pas envie de compter les points et donner, c'est juste que c'est le match où on a été collectivement le plus impressionnant, en fait, mais pour le coup, même de la saison. On avait, enfin, surtout cette première mi-temps, et jusqu'au premier changement, on avait vraiment des situations où tu avais, grosso modo, t'as l'impression qu'il y avait 25 Parisiens et 8 Lillois sur le terrain, quoi. Visuellement, t'avais des surnombres quasi constants sur toutes les zones du terrain. Et là-dessus, j'ai trouvé ça très intéressant. Et comme Soura a mis en avant pas mal de joueurs, j'ai envie d'en mettre un en avant aussi sur ce passage-là, c'est Ruiz. Et c'est quelque chose notamment qui a été notable à la sortie de Ruiz. Beaucoup de gens, et c'est vrai qu'Asensio a assuré le lien entre le milieu et l'attaque. Mais mine de rien, Asensio s'est retrouvé un petit peu orphelin à la sortie de Ruiz parce que Ruiz a été vraiment le métronome du milieu de jeu. Il a eu un impact énorme sur toutes nos sorties de balles. Et du coup, bah, il a eu pas mal de matchs où il était pas si bon que ça. Et là, il était vraiment intéressant. Mais c'est ce que Soura a dit, c'est collectivement, c'est cet impact qu'on a eu à la perte du ballon, la volonté de la récupérer, effectivement avec les courses des trois devant, mais toute l'équipe d'une manière générale, un pressing qui était coordonné et qui était intéressant, et une utilisation intéressante du ballon, même si offensivement, il y a peut-être des trucs à redire. On reviendra dessus peut-être.
Alors justement, pour revenir un peu sur les matchs que j'estime être les meilleurs du Paris Saint-Germain cette saison, alors bien sûr, il y aura des contextes à chaque match, mais pour l'instant, dans le lot, je pense qu'on peut mettre Lens, je peux qu'on met un Lens qui était en très mauvais début de saison, qui enchaînait les défaites, qui finalement a eu besoin de la Ligue des Champions pour se réveiller. Lyon, un Lyon complètement malade, il faut le dire aussi, hein, c'est pas le grand Lyon qu'on a connu plus jeune. Marseille aussi, un match où justement, peut-être on peut mettre l'aspect classico, mais Marseille peut-être un match qui a quelque chose en commun avec le match d'aujourd'hui, l'absence d'Mbappé, mais je ne vais pas trop développer là-dessus pour le moment. Je pense qu'il y a des choses plus intéressantes à développer au cœur de ce match. Mais si tu veux ajouter quelque chose, Dreyas, vu que tu as levé le doigt, je suis quelqu'un de
Mais
poli, avec grand
justement,
plaisir.
par rapport à ce que disait Sourac, c'était le match rassurant par rapport relativement au match qui est arrivé mercredi. Ben justement, ce sera pas la même équipe. Ce sera pas la même équipe mercredi. Et ce qui crée les déséquilibres qui étaient retirés ou aujourd'hui on a trouvé un nouvel équilibre, ben tu pourras pas avoir la même chose, clairement pas avoir la même chose mercredi. Et donc ce match-là, d'une certaine manière, c'est presque une bulle. C'était un match de presque de coiffeur.
Oui, aussi, oui.
Et c'est pas le match qu'on va retrouver tout simplement mercredi.
Et si
Alors,
tu
je te.
peux
Oui, vas-y, Milan, vas-y.
rajouter quelque chose, j'ai trouvé que les commentateurs du match avaient, même si bon, moi j'étais avec Antonetti, un peu compliqué le match, mais avaient souligné quelque chose d'important. On a senti enfin, contrairement, je pense, aux deux autres matchs, une envie des joueurs de justement aller décrocher quelque chose aujourd'hui et de faire une bonne performance. On sentait vraiment que tout le monde avait envie de tirer enfin, d'aller dans le même sens et tout le monde était prêt à faire les efforts, donc c'était parfait, quoi.
Alors justement, ouais, sans parler de dire Mbappé ou non, je pense que il y avait deux joueurs absents ce soir, un par ligne, Mbappé et Marquinhos, qui n'étaient pas là ce soir. Et tu peux effectivement commencer à tirer des conclusions et te dire peut-être que sans ces joueurs, tu vas réussir. En attendant, ces deux joueurs, je pense qu'il y a de fortes probabilités qu'ils soient titulaires justement contre la Real Sociedad. Et je ne pense pas qu'on
Énormément.
verra. Ouais, voilà, je suis d'accord avec toi, Dreyas, on
Énormément.
verra pas exactement le même 11. Et oui, il y aura des différences, mais je pense qu'il y a certains joueurs qui ont marqué des points ce soir. Je pense notamment à Mukiele qui, justement, on voit que Beraldo, c'est pas trop son truc de jouer latéral gauche, et je pense que ce serait bien d'arrêter de le faire. Et je pense que Mukiele qui, bon, jusque-là, n'avait pas eu beaucoup trop de temps de jeu pour certaines raisons. On va parler blessure, on va pas parler du reste, je vais pas commencer à rentrer dans l'extra-sportif parce que je ne suis pas un insider. Mais il faut dire ce qui est, Mukiele ce soir, je pense, peut-être a été l'un des grands gagnants. Je sais pas ce que vous en avez pensé.
Je ne suis pas forcément la personne la plus à même pour juger. Moi, j'étais trop dur avec
Donne ton
Mukiele
avis.
avant. J'étais trop dur avec Mukiele avant qu'il arrive. Et bah, du coup, j'ai mangé mes paroles parce qu'il m'a donné tort à chaque fois qu'il était sur le terrain. Et du coup, bah, j'ai un peu les yeux de chimène avec ce joueur. Je le vois peut-être plus beau. Ah bah attends, on va s'interrompre 2 secondes parce qu'il y a Swapper qui vient de faire un petit don. Je ne sais pas
Merci à
si tu
toi,
l'entends.
Swapper. Alors justement, je n'arrive plus à retrouver le fameux jingle, je suis désolé, je t'aurais bien mis le jingle des
Actionnaire
applaudissements.
majoritaire de Paris Central.
Mais voilà, non, on va lui répondre. Je vais être honnête concernant Beraldo. Le flop, c'est Luis Enrique qui a repas à son poste. Et petite une populaire opinion, on est plus stable sur Mbappé. Alors, je rejoins totalement ta première partie de commentaire. Je pense que si Beraldo a joué ce soir dans l'axe, à gauche, pardon, c'est pour réhabituer Lucas Hernandez à jouer dans l'axe. Parce que c'est ce que je disais en off à Dreyas et Sourd avant de commencer. Lucas Hernandez a joué les 6 derniers mois comme latéral gauche et les 6 précédents blessés. Donc, il a moins l'habitude de jouer le défenseur central. Et je pense que ça explique le côté gauche de Beraldo. Mais je pense qu'avec le match de Mukiele, c'est pas quelque chose qui va être amené à être reproduit. Sur la deuxième, bah écoute, on a fait un très bon match sur Mbappé, oui. Est-ce que pour autant, c'est une généralité qu'il faut forcément se dire que Mbappé ne doit plus jouer au PSG? Je pense que c'est encore un peu tôt pour le dire, cependant. Mais voilà, justement, vas-y, Darius, rajoute quelque chose.
Mais alors, très rapidement, sur Beraldo, ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais dans ce cas-là, vas-y, mais un mec est capable de jouer sur l'aile parce que Beraldo a juste pas la vitesse pour jouer sur l'aile, il s'est fait bouffer. En plus de ça, tu le mets face au meilleur Lillois, qui est Zargova, qui est un joueur qui est juste un poison infini, et tu mets un
Il n'a
mec
même
qui a
pas de
pas de
repères.
vitesse, hein?
Il n'a même pas ses repères en
Ouais,
plus.
mais au-delà de ça, tu mets un mec qui n'a pas la vitesse nécessaire face à un joueur comme l'ailier lillois qui est un problème pour tout le monde. Enfin, c'était l'envoyer au casse-pipe. Et je peux entendre, hein, je peux entendre l'argument de redonner un petit peu de temps de jeu à Hernandez dans l'axe parce que tout simplement pour pouvoir redévelopper des repères. Mais là, t'envoies vraiment en plus de ça un très jeune joueur. Tu l'as fait jouer 2 fois sur l'aile. Et une fois dans l'axe, il a apporté une réponse cohérente dans l'axe. À chaque fois, il s'est fait bouffer sur l'aile. T'es en train de lui mettre la tête sous l'eau. Et je suis pas sûr que ce soit si top. Et pour en revenir sur Mukiele, oui, moi, j'ai eu l'impression qu'il a fait un très bon match. Mais après, comme j'ai peut-être les yeux de chimène, je sais pas. C'est vrai qu'offensivement, il a pas assez apporté. On sait que c'est pas sa première qualité. Mais il a tout éteint sur son côté. Mais après, quand j'ai dit ça, il y a des gens qui m'ont dit oui, mais c'est pas le côté dangereux de Lille. Et c'est possible. Donc, je suis pas à même pour répondre parce que j'ai du mal à être objectif avec ce joueur.
Non, et je trouve que tu as quand même été assez objectif pour le coup pour quelqu'un qui n'était pas pour son arrivée, on va le rappeler quand même, mais non, tu as été objectif. Est-ce que Sora et Milan voulaient rajouter quelque chose sur Mukiele?
Bah, c'est un joueur qui s'est toujours battu la saison dernière avec Christophe Galtier, où Hakimi n'était pas forcément à son aise. Il a réussi à glaner sa place de titulaire. Il fait ses dents. Il a souvent été polyvalent. On l'utilise dans l'axe, on l'utilise à gauche, on l'utilise à droite. Il dit rien, il essaye de faire son travail. Là, aujourd'hui, c'est un match important pour pouvoir gagner des points et enfin, enfin essayer de se dire que j'ai ma place avec Luis Enrique, même si je correspond pas forcément à sa mise en place tactique et à sa philosophie de jeu. C'est un bon joueur qui peut être bon et offensivement et défensivement. On n'a pas oublié aussi son beau sauvetage devant la frappe de, je sais plus quel était le joueur qui avait tiré, mais en tout cas, pour moi, il gagne des points. Après, je pense qu'il doit quand même faire mieux offensivement parce qu'il y a quand même un apport qui peut être beaucoup mieux. Mais sinon, c'est un joueur qui peut être bon dans la rotation et qui peut, pourquoi pas, s'affirmer en tant que titulaire malgré la grosse saison d'Hakimi.
Milan, si tu veux ajouter quelque chose.
Ouais, moi je pense la même chose que Soura. Après, je l'ai trouvé plus intéressant quand il était justement sur ce côté gauche de la défense parce que bah il était moins, on lui demande moins de partir en attaque où justement il est plus à l'aise. Dans ce rôle de peut-être pas trop débordé non plus, mais non, c'est un match pas extraordinaire, je trouve, moi, de Mouklin, pour ma part, même si voilà, il a fait ce qu'il fallait défensivement, offensivement. Il y a une petite action même où il tacle, il arrive à récupérer le ballon qui est pas mal, donc non, on va dire que c'est une bonne performance pour un joueur qui est pas forcément non plus en confiance.
C'est vrai que c'est dommage, Mike, que nous n'ayons pas Hitch depuis son chalet. Mais écoute, si tu cries Yodlei suffisamment fort, peut-être qu'il reviendra. Concernant Mukiele, en fait, tu as parlé de deux actions en une, Milan. Mais oui, tu parles de la fameuse action où Mukiele fait un tacle à la récupération super haut et enchaîne avec la frappe.
Oui, justement, ouais.
Alors oui, il aurait pu faire la passe, comme disait Dreyas. Mais en même temps, je peux entendre que quand tu fais ce genre de geste et que tu arrives au bout de ta course, tu as un peu envie de croquer. Tu dis, ouais, j'ai réussi l'action, je vais la réussir jusqu'au bout. C'est un peu humain. Mais ouais, j'entends totalement. Concernant justement Mukiele, moi ce que j'en pense, je reste sur ma ligne de conduite d'avant le mercato. Je reste persuadé qu'on aurait dû recruter un latéral remplaçant. Les opportunités n'ont pas manqué, hein. Il y a eu du mouvement sur le mercato hivernal. Madsen a quitté Chelsea en prêt, donc il était bien sur le marché. Quentin Merlin a quitté Nantes, bon, lui il aurait fallu mettre une indemnité de transfert. Il y a Sacha Boué qui a quitté aussi Galatasaray pour le Bayern Munich. Donc en soi, il y avait des possibilités de faire un latéral remplaçant. Et je pense que si tu n'en as pas recruté d'autres, bah peut-être que Mukiele, étant donné les performances de Beraldo à gauche, qui n'est pas un latéral, bah je pense que Mukiele a quand même une carte à jouer à ce poste, en étant le défenseur hybride qu'était Lucas Hernandez en début de saison, parce que finalement Mukiele, lui aussi, est un défenseur hybride.
On m'a interpellé, oui, mais
Dans le chat.
bien sûr, il va planter des buts, c'est pas le problème. Est-ce que c'est un joueur que j'ai envie d'avoir et je m'en tiens.
Ah, Vinicius. Ah, parce que tu as dit quelque chose ce midi en live,
Oui,
c'est ça?
par rapport à une autre vidéo, et du coup,
Ah non,
je
c'est la vidéo du 11, il a dit qu'il n'était pas
réagissais.
fan.
D'accord. Non, Vinicius, très très grand joueur, mais est-ce que en soi, acheter un joueur du calibre de Vinicius, Léao, c'est une nécessité sur l'aile gauche quand un joueur comme Barcola qui se développe et qui est en train d'exploser au Paris Saint-Germain, son entrée ce soir, en tout cas, est encore très pertinente. Mais voilà, je vous propose qu'on enchaîne quand même avec le deuxième sujet pour ne pas trop trop traîner non plus. Nous sommes maintenant à 4 jours de la Real Sociedad, le match de Ligue des Champions. Est-ce que le Paris Saint-Germain, finalement, n'arrive pas enfin à échéance et n'est-il pas enfin prêt pour ce match? Avec le match de ce soir, bien entendu.
Ils n'ont pas le choix.
Et ouais, vas-y, Soura commence.
Ouais, Paris n'a pas le choix. De toute façon, ils sont obligés d'être prêts. C'est un match important. Malheureusement, quand tu es en Ligue 1 et que tu es Paris Saint-Germain, bah, le plus important, ça reste la Ligue des Champions. Et c'est sur ça qu'on va juger un peu tout ce que tu vas faire ces derniers mois. Tu es obligé d'être prêt, notamment que ce soit physiquement, techniquement ou mentalement, et surtout mentalement pour cette équipe. Et bah, pour le coup, je pense que l'équipe est prête. Il y a eu des changements qui ont été faits. Il y a eu du turnover bien géré ce soir face à Lille, face à Brest. On a su faire le boulot en Coupe de France. On se rassure pour le coup avant cette échéance importante. Maintenant, pour moi, le principal, vu qu'on n'a pas été capable de finir premier, c'est de se mettre à l'abri très rapidement au Parc des Princes, parce qu'on sait à quel point le match retour peut être compliqué pour le Paris Saint-Germain ces dernières années. Il va falloir faire un gros gros match, et surtout c'est là que le choix de Luis Enrique va être très important la semaine prochaine. C'est la bataille du milieu de terrain. On va voir si nos joueurs sont prêts à compétir dans ce genre de compétition à haute intensité et tenir le rang face à un milieu de terrain qui se connaît depuis plusieurs années.
Milan.
Non, bah, comme dit Soura, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. Après, moi, je pense qu'on peut quand même prendre confiance sur ce match-là. Luis Enrique a bien fait le travail, il a fait quand même jouer à peu près tout le monde. Tout le monde a à peu près un peu de temps de jeu, justement, pour jouer ce match-là. Et surtout, on n'a pas vu justement le 11 titulaire indéboulonnable en Ligue des Champions de Luis Enrique depuis longtemps. Voilà, sur les deux derniers matchs, à chaque fois, soit qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas là, soit un joueur blessé. Voilà, il y avait forcément un ou deux changements. Et en plus de ça, il y a surtout la montée en puissance de Barcola. Barcola qui fait extrêmement mal aux défenses de Ligue 1. J'ai hâte de le voir pour une fois sur un match où il prend confiance en Ligue des Champions. Maintenant, après, voilà, c'est un match de Ligue des Champions. On est au parc, il n'y a pas le choix d'aller planter. En plus de ça, c'est une équipe qui est faible mentalement en ce moment. Voilà, il reste sur 4 matchs sans mettre de but. Ils viennent de perdre contre Osasuna, donc on n'a pas le choix d'aller juste leur mettre un 3-0 peut-être. On imagine. Enfin, beaucoup de buts au Parc des Princes, quoi. Là, je vais me faire des ennemis là.
Bah, pour moi, là,
c'est enregistré.
Je me disais, pour moi, la question en fait, c'est est-ce que la performance de ce soir s'explique par le physique ou par l'absence de Mbappé? Alors, je sais que tu voulais pas nommer l'éléphant qui était au milieu de la pièce, mais
t'as le droit d'en parler.
On est
obligé d'en parler. C'est juste que c'était pas mon sujet principal, mais bien sûr, vas-y.
Non, bien sûr, mais il y avait clairement une faiblesse offensive ce soir. Il n'y a pas eu assez au regard de la domination qu'on a eue sur le terrain. Il n'y a pas eu assez de tirs. Il n'y a pas eu assez d'opportunités. Je suis pas du tout en train de dire qu'on n'en a pas eu, mais au regard de la domination que tu avais, tu aurais dû en avoir plus. Mais par contre, ouais, physiquement, on avait l'air au point. Et si on reste physiquement au point, bah, en fait, tu mets Mbappé. Oui, bien sûr, il n'y aura pas ce pressing que tu avais avec cette ligne de trois devant qui était en train de presser de manière coordonnée. Tu perds ça, mais tu gardes quand même un certain nombre d'acquis. Donc, peut-être que c'est le cas. Peut-être qu'en fait, on a été déçus, on a été frustrés des matchs qu'on voyait parce que physiquement, on était aux fraises. Et le fameux argumentaire à la Pinto, l'équipe qui arrive en forme en février, peut-être que c'est le cas. Maintenant, c'est possible aussi que tu remets Mbappé et tu remets l'autre éléphant dans la pièce, enfin l'éléphanto, tu remets Marquinhos, tu remets les deux, et tout à coup, tu retrouves les problèmes qu'on avait avant. Et en fait, mercredi, on va savoir, comme tout le monde, je souhaite une victoire, j'espère, surtout comme l'a rappelé Soura. Enfin non, tu mets 1-0, enfin il n'y a plus la règle du but à l'extérieur, mais si tu ne perds que d'un but, ça peut aller, mais faut garder à l'esprit que de toute façon c'est un truc qui va jouer sur demi-temps et faut diffuser de toute façon une image positive parce que sinon si tu permets en fait à la Real de prendre confiance, tu prendras cher au retour.
Moi j'ai une autre question concernant Mbappé. Vas-y, je te laisserai répondre. Vas-y Milan.
Je voulais continuer là-dessus sur Kylian Mbappé. Je suis d'accord avec ce que dit Darius vis-à-vis en fait d'Mbappé. Je pense que dans ce match-là, quand il n'y a pas Kylian Mbappé, les joueurs sont obligés de jouer vis-à-vis d'eux-mêmes et avec les autres pour pouvoir marquer. On peut voir que quand Mbappé est sur le terrain, souvent ça veut faire la passe à Mbappé ou ça veut laisser faire Mbappé. Là, ils n'ont pas le choix d'aller tenter, d'aller. Et on a pu le voir, hein, Fabien Ruiz, il tente un centre, ça rentre un peu. Mais voilà, on sent les joueurs, même Ousmane Dembélé qui des fois, peut croquer un peu pour Mbappé. Là, justement, non, il tire. C'est ce que moi j'attends de Paris Saint-Germain, c'est que des fois, en fait, au bout d'un moment, t'es en dehors de la surface à lâcher une petite frappe. Des fois, il y a un peu, je trouve qu'il y a trop vouloir peut-être mettre Mbappé dans les bonnes conditions.
Alors, moi, j'ai une autre question sur Mbappé, parce que moi, je pense qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé du tout concernant Mbappé. Parmi tous les joueurs qui ont une probabilité de jouer contre la Real Sociedad, à part Donnarumma, qui bien entendu est un gardien que tu ne fais pas rentrer en cours de match, les joueurs sont tous rentrés, sauf Mbappé. Donc moi, ma question, c'est est-ce qu'il est réellement en état de jouer? Parce qu'on nous a dit, oui, il est en état, il va jouer contre Lille, mais il s'entraîne un peu à part vendredi. Il n'a pas joué une seconde ce soir.
Pas déjà.
Est-ce qu'il est réellement en état de jouer titulaire contre la Real?
Il a continué tout le match, tu voyais qu'il marchait normalement, alors après, c'est possible.
Il est encore à chaud, Dreyas, vu le coup qu'il a pris, c'est
oui,
juste qu'il
sûr,
est encore à chaud.
Sûr, bien sûr. Non, mais bien sûr,
il n'a pas joué une seconde ce soir.
Mais si ça avait été le cas, si la blessure, déjà, ce serait une entorse, c'est à chaud, parce que si c'était ligamentaire, et quand tu vois la manière avec laquelle ça a tourné, tu as plus l'impression que c'est ligamentaire. Si c'était ligamentaire, il a même à chaud, à froid, tout ce que tu veux, tu continues pas. Donc l'entorse peut-être, mais s'il avait une entorse, il n'aurait pas été en train de marcher comme il marchait aujourd'hui. Et je pense, moi, je penche plus pour la précaution. Et avant de repasser la main aux autres, je voulais juste réagir vite fait à un commentaire, si je peux, et après je passe la main aux autres. Je comprends même pas pourquoi on va opposer les deux. On a un qui est formidable, qui est Dembélé, oui, Dembélé, on le sait que Dembélé, il a ce truc dans le dernier geste, c'est pas tout à fait la même chose. Mais le mec, il faut y se mettre à la place des défenseurs. Enfin, tu martyrises les défenseurs avec Dembélé. Et t'as Barcola qui rentre en fin de match et qui a des occasions formidables. Mais pourquoi mettre en opposition les deux joueurs et essayer de. Les deux sont formidables, en fait. Et réjouissons-nous d'avoir les deux, quoi.
Le truc, c'est par rapport à la création d'occasion, par rapport au registre que tu peux apporter. Chacun est assez différent, mais Moi, je me demande à ceux qui disent à vouloir opposer, notamment en début de saison, ça reprochait à Ousmane Dembélé de ne pas mettre beaucoup de buts, à part Mbappé, à part potentiellement Mohamed Salah, à part ces deux dernières années avec Vinicius Junior, qui peut se permettre de mettre autant de buts, autant de passes décisives que ces joueurs-là, d'apporter autant devant la cage. Un Kvaratskhelia, ça ne met pas plus de 25 buts par saison. Un Raphaël Léao, ça n'en met pas 25 buts par saison. Un Rashford, je préfère pas en parler vu comment il est mauvais cette saison aussi. Donc c'est rare en fait. Un ailier, le but d'un ailier, c'est pas de marquer des buts. À la base, c'est le but d'un neuf. Malheureusement, avec Messi, avec Cristiano Ronaldo, le football, il a été cassé en deux. Tu as deux ailiers qui faisaient des saisons à 50 buts par saison. C'était pas le rôle. Le rôle d'un ailier, c'est de déséquilibrer les défenses, c'est de mettre un mal en main contre un, c'est de centrer, faire basculer un match par le dribble, par la passe, par le mouvement ou par une accélération. C'est pas en mettant un but. Pareil pour Di Maria. Di Maria, c'est pas quelqu'un qui mettait 20 buts par saison ou 25 passes décisives, des passes décisives, certes, mais des buts, non. C'est pas un
Les
joueur qui
25,
mettait. Oui, les 20 des passes
il
décisives, il pouvait les mettre. Et même un Di Maria, pareil, dans son registre, c'est une perle rare. Ou sinon, il y en a qui vont me citer Gareth Bale, potentiellement, mais pareil, c'est des perles rares. C'est pas des joueurs qui vont souvent aller mettre les 40 buts par saison. Aujourd'hui, ces joueurs-là, c'est des neufs.
Et
J'ai
du
là,
coup,
oui,
Sora,
bah, Rai aussi pendant qu'on y est.
et du coup, Sora Mbappé blessé ou pas?
Pour moi, il est diminué. Il n'est pas à 100%. Parce que, en plus, selon certains joueurs, certains journalistes qui parlaient, il était encore en train de faire des courses.
Très
Donc,
buteur.
ouais, pour moi, je ne pense pas qu'il soit à 100%, mais il va jouer. Puisque c'est qui Mbappé. C'est lui qui décide. Et ça serait
Ouais,
quand
puis
même important, puisque
les stats.
il. C'est quand même important parce que qu'il soit diminué ou à 100%, ça reste un danger. Les défenseurs psychologiquement vont tout de suite être attirés par Kylian Mbappé lorsqu'ils vont défendre sur lui. Ça, c'est un danger permanent. De toute façon, sur une accélération, sur une passe, sur un dribble, il va pouvoir faire énormément mal face à son vis-à-vis. Et pareil pour la Real Sociedad, bah, techniquement, quand même on a Mbappé qui n'est pas à 100%, bah, ils ont des joueurs
D'autres
aussi qui ont
solutions.
été blessés. Ils ont été blessés. Je crois qu'il y a Robin Lenormand qui n'est pas présent. Il y a d'autres joueurs aussi qui ne sont pas à 100% non plus. Donc, je pense que la Real Sociedad non plus n'est pas forcément sereine à l'approche de ce match.
Et concernant Ousmane Dembélé, je vais répéter ce que j'ai dit au moment de sa signature. Je n'attends pas de lui qu'il mette 20 buts par saison, ce n'est pas de ses capacités, il ne l'a jamais fait avant d'arriver au PSG, à part peut-être une fois. En revanche, je lui demande de mettre une vingtaine de passes décisives par saison, et ça, je pense qu'il en est capable, et il a déjà dépassé la moitié.
Ouais, sachant qu'en plus il est vachement intrus, de toute façon ça se voit sur le but de Ramos, il aurait pu largement allumer le gardien, et bah non, il fait la passe, Ramos la
Et
marque
celle pour
en
lui, ce qui ne sera pas comptée
tapine,
d'ailleurs.
bah, en fait, non, et c'est pour ça que pour moi, Dembélé, ça sert à rien de comparer avec Barcola, vu que c'est ça de base de commentaire, parce que là, dans ce match-là, on sent qu'avec un vrai numéro 9, déjà, il y a un peu plus de liberté vis-à-vis de Ousmane Dembélé, parce que bah, Ramos attire des défenseurs. Et après, vis-à-vis de Barcola, bah Barcola, voilà, on le voit sur le début de la saison, c'est un joueur totalement différent, qui va beaucoup plus aller au contact du joueur sur le côté pour tenter un centre ou tenter une frappe petit filet droit. Alors que Ousmane Dembélé, c'est vachement plus dans le dribble, vachement plus dans il revient plus dans l'axe pour tenter une passe. Enfin, c'est toujours, on s'attend jamais à ce que peut faire Ousmane Dembélé, quoi.
Alors oui, maintenant justement, je vous propose qu'on passe peut-être à la rubrique la plus attendue de ce live et n'hésitez pas à liker justement pour développer au maximum la chaîne avant de la commencer. Je commence ma fameuse grande question et cette fois je vais inverser un peu l'ordre des caméras pour changer. Cette question, je la pose aussi bien aux personnes présentes dans ce live que celles qui sont dans le chat. C'est qui vos top et flop? Vas-y, Darias.
C'est à moi de commencer en plus.
Hors des
Okay.
caméras, j'ai
Attends,
été
non, mais
sympa.
enfin, avec ma mémoire, moi j'ai besoin de me mettre la feuille de maths devant les yeux. Top, top, déjà, je vais mettre Ruiz. Je vais mettre Ruiz pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Il a enfin, pour moi, enfin, Ruiz, c'est le joueur qu'on a découvert quand il est sorti. Et tout simplement parce que l'équilibre qu'avait l'équipe bah, n'était plus le même. Et d'une manière générale, en transition, tu t'es vraiment, vraiment, vraiment affaibli à la sortie de Ruiz. Après ça, je vais mettre Asensio, qui a été l'autre chaînon, qui a été, enfin, pour moi, ce milieu a été magique. Le milieu a été magique. Même Ugarte, on l'a vu, mais il était vraiment déchargé de tout l'aspect avec ballon. Et les deux ont vraiment, pour moi, vraiment, vraiment, vraiment pour moi, fait exister l'équipe. Et du coup, j'ai envie de les mettre. Et après ça, bah, je vais mettre Eden Bélé. et Barcola, parce qu'ils n'ont pas joué en même temps, du coup ça compte pour un seul joueur et ça marche sans aucun souci. Les deux ont été génialissimes. Et je sais même pas comment on peut essayer de classifier. Ils sont complètement différents. Barcola, moi, j'ai pendant longtemps, j'étais, ah, il est un peu jeune, il est un peu frêle, il va falloir lui trouver un concurrent. Je commence vraiment à douter de ça. Le mec, il a l'air d'avoir une tête super solide. Ouais, il lui manque peut-être 2-3 kilos. Et oui, bien sûr que dans 2-3 ans, il sera encore meilleur. Mais en fait, il est déjà prêt pour être titulaire. Il est déjà prêt pour être titulaire. Il te le montre après avoir fait un match extraordinaire. Il te fait une rentrée qui est fabuleuse. Alors, il lui manque peut-être encore quelques matchs pour complètement nous rassurer, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il a que 6 mois de Ligue 1 hein, en tant que titulaire dans les jambes avant à Lyon. Hein. C'est pas comme s'il avait 3 ans, quoi. Donc, on en est vraiment au tout début de son histoire. Donc, être rassuré par quelques matchs. Mais j'ai l'impression que le gamin, il est... Tu sais, c'est pas Warren Zaïre-Emery au niveau physique, mais au niveau mental, il est de cette catégorie-là, de la catégorie des Warren, des Mbappé, etc.
C'est un joueur sérieux.
Et match en match, moi je le voulais, mais je voulais qu'il soit concurrencé. De match en match, je me dis, bah non, c'est bon, on a peut-être le titulaire au poste. Et Dembélé, il y a eu plusieurs tweets qui ont passé qui étaient très justes. Dembélé, il a allumé la lumière. Il a juste fait le jour et la nuit. Il a créé de la magie, il a cassé des reins, il a donné des mal de crâne pas possibles à ses défenseurs. Enfin, les deux pompons étaient magiques et je veux les nommer ensemble.
Ben, j'ai attendu un petit peu avant de faire monter, mais merci Swapper en tout cas pour le don. On est sur un doublé ce soir, déjà plus de buts que n'importe quel buteur du PSG ce soir. Et justement, ta question, affirmation plutôt, que tu es d'accord avec nous sur la vitesse que Dembélé a, qui lui donne beaucoup d'occasions, et sa finition de chasseur de pigeons est assez frustrante. C'est à l'image du joueur, tu ne pourras jamais attendre de lui 20 buts par saison, mais 20 passes décisives, je pense que tu peux avoir cette exigence avec lui sans aucun souci, il est tout à fait capable de faire ça. Il n'y a qu'à voir certains matchs.
Et le truc, c'est que s'il est frustrant pour nous, il ne faut pas oublier qu'il est énormément frustrant pour les adversaires. Je peux t'assurer que, quel que soit le latéral, parce que tu peux prendre tous les latérales de Ligue 1, il n'y en a aucun qui a envie d'affronter Dembélé.
Franchement aussi, il faut se rendre compte un peu de l'apport qu'un Ousmane Dembélé dans cette équipe l'année dernière. Le danger ne venait que du côté gauche avec Mbappé. Aujourd'hui, les côtés sont divers et variés. T'as un Barcola qui va rentrer, t'as un Dembélé qui est présent, t'as Mbappé voilà, qui est là aussi. Vu que maintenant t'as un faux numéro 9 avec Mbappé, le danger est multiplié par 3. Donc oui, c'est l'apport de ces trois joueurs-là est très intéressant comparé à la saison dernière où tu n'avais qu'un seul danger.
Milan.
Je sais pas, franchement, sur ce côté-là, je sais pas quoi dire. Franchement, je vous dis la vérité. Pour moi, c'était plus un match collectif, quoi. Donc, c'est tout le monde.
Bah, tu peux donc, dire juste que tu as aimé le collectif, oui, c'est vrai. T'as le droit de dire pas que des joueurs, tu sais.
Non, j'ai aimé le collectif. Après, si je dois citer 3 top joueurs, voilà, je vais citer les mêmes, hein. Ousmane Dembélé. Pour moi, même Barcola, même s'il est rentré très peu, sur l'action qu'il fait, c'est top, quoi. Il dribble un joueur, il te fait le centre, c'est un corps parfait et il m'impressionne de jour en jour. Même si j'aimerais aussi te dire un petit mot pour Gonçalo Ramos, que je trouve dans le match super intéressant vis-à-vis de son placement, vis-à-vis de ses appels, vis-à-vis de ses contre-appels qui ont pu permettre à Ousmane Dembélé ou à Kolo Muani de pouvoir rentrer justement dans cette surface. Après, moi, en flop, moi, je ne vois pas vraiment de flop, mis à part Beraldo, mais encore une fois, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose, en fait, vis-à-vis de ses matchs, il a une saison dans les pattes, il a que 20 ans, il joue sur le côté gauche, on sent que c'est pas vraiment son poste. Donc on se pose des questions sur Beraldo, mais il est encore titulaire, donc on va répéter à chaque fois la même chose après chaque match. Après, j'aimerais aussi mettre un petit flop pour Keylor Navas, mais bon, encore une fois, Keylor Navas, c'est son deuxième match de la saison. Comment voulez-vous qu'on puisse critiquer un mec comme Keylor Navas qui reste au club et qui joue pas? Donc non, franchement, pour moi, vis-à-vis des flops, il n'y a rien à dire, quoi. L'équipe a été bonne dans la mentalité, sur le terrain, en finition, même, on était super efficace. Donc non, c'est un bon match du Paris Saint-Germain.
Très rapidement, parce que j'ai un petit hater là il y a un produit, il faudrait que tu regardes, c'est des bougies d'oreilles. Et ça permet de virer quand on a vraiment trop de cérumen et qu'on n'est pas capable d'entendre ce que les gens disent. Donc je te conseille, tu t'en allumes une des deux côtés. Et peut-être que tu arriveras à comprendre les mots qui sortent de ma bouche. Je te repasse tonton, à toi.
Oui, je voulais faire mes top et flop, du coup. Donc, pour les top et flop, niveau des tops, Ben, j'ai envie de mettre Mukiele ce soir, pas forcément attendu titulaire, surtout au vu de la première partie de saison. On s'attendait même à ce qu'il soit vendu ou prêté un peu étrangement au Bayern Munich. Finalement, j'ai bien aimé sa prestation. J'ai beaucoup aimé aussi celle de Ousmane Dembélé qui est dans une forme étincelante depuis quelques matchs. Vraiment, j'ai l'impression qu'on est en train de toucher la meilleure version d'Ousmane Dembélé. Et tant mieux qu'on arrive à l'exploiter du côté du PSG et surtout qu'il ne se blesse pas. Et enfin, en dernier top. En fait, il y a trop de choix, donc j'ai plutôt envie de mettre le collectif ce soir parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la prestation collective de cette équipe. L'un des rares matchs où justement Luis Enrique a pu appliquer son jeu de position, c'est-à-dire que même s'il n'avait pas forcément la balle, l'équipe était constamment en supériorité numérique dans les zones de jeu où il y avait le ballon, que ce soit bas sur le terrain, haut sur le terrain. Lille n'a finalement posé quasiment peu, voire pas de problème défensivement au Paris Saint-Germain. Donc je me dis que finalement on est sur une prestation collective qui m'a beaucoup plu et c'est pour cela que j'ai la placée dans les tops. Et au niveau des flops, ben, j'en ai pas en fait. Donc du coup, je ne vais pas en inventer pour le plaisir de mettre des flops forcément. Et maintenant qu'on a passé cette petite catégorie des top et flops, ben, moi j'ai envie de parler des
Ah,
commentaires qu'on a
j'ai un
sélectionnés.
flop.
Ah, t'as un flop, vas-y, Sora. Et après ce, Darius, vous avez tous les deux levé la main.
Flop Alexandro. Voilà, match catastrophique dans l'ensemble. Il nous offre deux buts, donc bravo à lui.
Ah, bien vu, Swapper. Effectivement, tu aurais pu être dans mes tops, vu que tu as fait mieux en 5 minutes que Kurzawa en 10 ans. Mais vas-y, Dryas, qu'est-ce que tu l'as ajouté?
Alors, ça parle pas mal de Ramos et Randall. Pour moi, ils sont ni dans les tops ni dans les flops. Ramos,
Tout à
il
fait.
a, enfin, les deux ont été très intéressants dans la partie sans ballon. Pour moi, Ramos, il a vraiment le profil de neuf. Mais il a touché quoi? Il a dû toucher une dizaine de ballons, pas plus. Mais après, ce n'est pas que de sa faute. C'est aussi apprendre à jouer avec lui. Je pense notamment à une
Ouais,
balle à
mais.
Asensio, où il a une passe facile à lui faire, il a une passe facile à lui faire et il ne lui fait pas, etc. Mais en soi, pour moi, les deux font un bon match. Un Randal Kolo Muani qui presque ça t'attriste, en fait, le fait de voir qu'il rate trop. C'est sûr qu'il rate trop, mais ça t'attriste parce qu'il en est lui-même comme ça. Mais après, il a été tellement généreux sur ce match que le flopper, ça serait presque indécent. Et finalement, et après, je passerai la parole à Milan, mais finalement, moi, j'ai un flop. C'est les commentateurs sur Canapu. Je n'ai même pas parlé du fait qu'ils soient pro-Paris ou
Catastrophe.
anti-Paris.
Retenez, de
C'est
toute
pas
façon, c'est horrible.
pro-Paris ou anti-Paris, c'est juste la vulgarité dans le mauvais sens du terme, surtout Antonetti. C'est genre le mec, tu as l'impression qu'il se croit au PMU, il fait des remarques à l'emporte-pièce comme ça. C'est complètement déplacé, c'est enfin nul à chier. Et donc,
Il a
eux,
dit.
ils ont flopé vénère.
Il a quand
Est-ce
même
que
dit
tu peux.
que Hakimi n'était pas un joueur cadre de Luis Enrique, sachant que c'est sa
Oui,
meilleure
non, mais
saison.
ça encore qu'il ne suit pas les matchs, on
Mais
s'en doute.
n'importe
Moi,
quoi.
ce qui m'a un peu choqué, à la limite, j'allais dire le deux poids, deux mesures, sur la situation de Mukiele qui fait peut-être une faute sur Benjamin André. J'entends le truc du geste non maîtrisé et un peu dangereux après qu'il ait joué le ballon et qu'il touche du coup Benjamin André. En revanche, pourquoi quand ça arrive dans la même situation à Randall, ben là, du coup, ouais, ben, les contacts, ça fait partie du jeu, quoi. Là, il n'y a pas faute. Hein. Je dirais, excusez-moi, mais là,
Oui,
je trouve que c'est
mais tu sais,
vraiment
mais
de
même
l'analyse de
au-delà.
bas de comptoir, vraiment avec parti pris, en mode, quand c'est le méchant Paris Saint-Germain, on a le droit de taper dessus, et quand le Paris Saint-Germain, il fait quelque chose, eh ben, c'est pas bien.
Non, mais
Donc,
même, il y a
désolé,
des trucs
vraiment, je suis désolé,
où.
mais c'était vraiment. Je le dis parce qu'Antonetti, c'est d'habitude quelqu'un avec qui je
Non,
suis
mais.
plutôt d'accord, qui a des bons avis footballistiques, mais ce soir, littéralement, on n'était pas loin de l'avis de comptoir. Hein. Je ne sais pas
Non,
ce
mais il
qui
n'y a
s'est
pas que
passé,
ce
mais.
soir. De toute façon, à chaque fois qu'il parle du Paris Saint-Germain, j'ai
Non, non,
l'impression
non, franchement, il y a
que.
des émissions où il est très pertinent, vraiment. Je le regarde des fois
Mais
sur
non, mais
Canal
ça
Plus,
sent
il est
ça,
capable d'être
oui.
très pertinent, mais ce soir.
Mais moi qui regarde les matchs du Paris Saint-Germain, à chaque fois qu'il y a Antonetti, c'est pour moi je trouve que il est pas, enfin, il dit pas vraiment des vérités quoi. Il crache sur le Paris Saint-Germain à chaque fois. Mis à part quand il aime un ou deux joueurs. Une fois il y avait un Paris Saint-Germain Metz, on sait que c'est un ancien entraîneur de Metz. Alors là, il s'est lâché Antonetti. Je trouve ça dommage parce que bon, bah c'est pas forcément quelque chose de bien pour tout le monde quoi.
Je pense qu'il n'était pas content parce qu'il s'est fait prendre un match nul par Hakimi à la dernière minute. C'est pour ça qu'il n'était pas content.
Très
Vas-y,
rapidement,
Darius, tu
c'est
veux
un des
réagir?
meilleurs, c'est un des meilleurs joueurs de Ligue 1, le latéral droit de Ligue 1. Enfin,
Thiago Santos.
non, je parlais. Ah, peut-être. Ben, je pensais qu'elle pensait à Zagora.
C'est pas le latéral droit, c'est l'attaquant droit. Mais ouais, franchement, il
Hein?
est. Sur le premier match du Paris
Zagora.
Saint-Germain, Lille Paris Saint-Germain,
Pardon.
il nous avait déjà tués. Alors en plus, quand tu mets Beraldo en face. C'est imprenable. Mais par contre, Thiago Santos est aussi un très bon latéral droit et depuis le début de la saison, il prouve. Bon, après, ça, c'est rien à voir avec le Paris Saint-Germain.
Mais écoutez, maintenant je vais sélectionner les commentaires du chat que j'ai trouvé pertinents pendant ce live pour qu'on y réponde enfin tous ensemble. Enfin, tous ensemble. Chaque personne répondra à un commentaire parce que sinon cette séquence va durer près d'une demi-heure. J'ai posé justement la première question à Darius qui était: Ça, c'était le PSG du début de saison où ça pressait fort, mais avec l'équipe B qui n'est pas du tout normale et met en lumière les problèmes de l'équipe A, le manque d'effort de certains joueurs. Donc ça rejoint un peu ce que tu parlais tout à l'heure, le fameux éléphant dans la pièce dont justement je n'avais pas parlé parce que j'avais sélectionné exprès ce commentaire pour toi et je m'attendais à ce que tu y répondes. Qu'est-ce que tu penses de tout ça, Darius ?
Ben, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas, on n'a pas les éléments de réponse encore. C'est trop tôt dans la saison pour pouvoir être affirmatif sur le sujet. C'est, ouais, moi je pense, hein, je pense que c'est toute la problématique des joueurs stars. En fait, c'est, tu prends un Mbappé, bien sûr que ça coûte collectivement. Mais après, si t'as un Mbappé, si tout à coup, c'est le mec qui te permet de mettre un but en quart de finale, en demi-finale ou en finale, ou etc., etc., ta lecture, elle change. Et d'une certaine manière, c'est le rôle de ces joueurs-là. Cristiano Ronaldo en était un exemple formidable. Il déséquilibrait complètement ton équipe, mais il te permettait de gagner les matchs importants. Est-ce que Mbappé le fera ? Et là-dessus, enfin, surtout ces trucs-là, c'est trop tôt. C'est juste trop tôt pour répondre. Peut-être que c'est juste qu'on arrive à un pic physiquement et peut-être qu'on va avoir une confirmation avec Mbappé sur le terrain contre la Sociedad. Et c'est wait and see. Peut-être, c'est possible. Hein. Moi, je pense que Marquinhos, ça fait trop longtemps qu'il est là. Il appartient en passé. Je pense qu'il est temps de passer à autre chose. Je pense que je suis assez pour le fait de partir sur une politique sans aucune star, mais avec que des stars, enfin que des joueurs de ballon, des joueurs collectifs, et peut-être que ça sera le cas, mais peut-être que j'ai tort aussi, et je pense que déjà contre la Real, on aura des éléments de réponse. Si on joue de la même manière avec Mbappé, on va commencer à avoir flou et on va tout changer d'avis en fait.
Mais juste pour revenir sur tu disais que c'est le problème des joueurs stars, mais ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que par exemple Neymar, on peut le considérer comme un joueur star, et pourtant à un moment, où t'avais Messi et Mbappé, il faisait justement des retours défensifs plutôt intéressants.
C'était alors, faux.
Milan, les gars. Alors je vais reparler français. Les gars. Je vais reparler français parce que je ne parle bien français, je ne bégaye pas, je ne zozote pas, comme dirait un certain personnage de Jurassic Park 2. Pourtant, il me semble avoir dit que chaque personne répondrait à une question pour ne pas que cette séquence dure une demi-heure. Et il n'a fallu moins de 2 minutes pour qu'apparemment je ne sois déjà plus compris. Donc justement, j'ai posé la première question à Milan. Et justement, Milan, comme ça, toi, tu auras l'occasion de répondre à cette question. Qu'est-ce que tu penses de Beraldo sur le côté ?
Je vais me répéter sur ce débrief-là. Je pense que c'est trop faible pour jouer sur le côté gauche, sachant que bah surtout sur ce match-là où tu as un Zegrova qui est en plus un Thiago Santos qui ont été encore une fois très très bons. Je pense que voilà, Lucas Hernandez aurait été beaucoup plus intéressant sur ce côté gauche. Il a plus l'habitude et en plus de ça, c'est un joueur qui arrive à déborder toujours en retournant justement en défense quand il le faut. Beraldo, j'ai l'impression qu'il des fois il est asthmatique quoi sur le terrain. Il a du mal à revenir ou il a du mal à faire ses déplacements. Il a du mal à se placer par moment. Je pense que voilà, dans cette défense, si tu le mets en centrale à côté de Danilo, peut-être que Danilo arrivera justement avec cette expérience à l'aider. Donc, pour moi, Beraldo, il faut le mettre défenseur central. Mais je pense qu'en fait, Luis Enrique veut mettre forcément Hernandez aux côtés de Marquinhos dans cette défense centrale. Donc il veut l'entraîner, il veut bien le placer, il veut le mettre en confiance en centrale. Donc, je pense que c'est pour ça qu'il force avec Beraldo de côté gauche. Pour justement peut-être installer Nuno Mendes à gauche plus tard, même si j'y crois moyen vis-à-vis de peut-être un gros déséquilibre défensif sur la saison. Quoi.
Ceux qui ont dit non, dénoncez-vous.
Soura, prochaine question, elle est pour toi justement. Le match de Ramos, tu en as pensé quoi ?
Un bon match. Ça monte un petit peu en puissance. Déjà face à Brest, il était rentré très très tard dans le match. Il a quand même réussi à marquer. Là, pour le coup, en tant que titulaire en pointe, puisque ça change de la fois où il était sur le côté gauche, il y a toujours un peu le même Gonzalo Ramos. C'est un joueur qui va beaucoup se sacrifier sur le terrain, qui va aller presser, revenir en défense, aider ses coéquipiers et surtout qui a le sens du but. C'est un œuf de surface. Il a ce flair, il a cet instinct de numéro 9 pour pouvoir être souvent bien placé et trouver les bons moments. Donc, pour moi, c'est un plutôt bon match de Gonzalo Ramos. C'est récompensé par un but. Après, je trouve que déjà, il lui faut de la continuité. Ça, c'est important que ce soit dans des rentrées cette fois-ci à la 60e pour lui laisser une bonne demi-heure pour qu'il puisse s'exprimer ou cette fois-ci l'enchaîner en tant que titulaire et définitivement, alors pas l'installer puisque je pense que c'est réservé peut-être à Kylian Mbappé, mais en tout cas lui donner un peu plus de temps de jeu pour qu'il puisse prendre de la confiance, et ça c'est important.
Rapidement, très très rapidement.
Très rapidement, il a des qualités qui nous font défaut. Tu retrouves ce qu'avait, entre autres, ce qu'avait Cavani, la qualité des appels. Alors, ce soir, il loupe un appel et il n'est pas aussi bon en appel que Cavani, qui était vraiment là-dessus, qui était un alien, quoi. Mais voilà, les appels, il en a fait pas mal, il n'a pas été servi. T'as aussi, il y a aussi, faut aussi nommer le poids qui pèse sur une défense, c'est tout. Mais c'est un mec de 90 kilos, c'est un beau bébé qui est certes pas très très mobile, qui a une côté statique, mais quand tu te le prends en parpaing, bah en tant que défenseur, t'es pas très content. Et il va bouger une défense, il va déséquilibrer une défense, c'est comme ça. Il ouvre des espaces pour les autres. Il a ce qui est très intéressant, ces joueurs, ce qui lui manque, c'est vraiment le dernier palier, mais il a toute la panoplie, toutes les qualités de l'attaquant moderne, en fait. Et là-dessus, il est intéressant. Il faudrait juste qu'il franchisse encore un palier, et je pense que là, il serait formidable.
Ouais, totalement d'accord.
Parce que j'aime beaucoup le joueur, donc je voulais
abuser. Ouais, pareil.
Alors justement, ton tour revient, Adrias, ça tombe bien. Justement, la prochaine question est pour toi. Elle nous vient de Moscou, et justement, je n'ai absolument pas parlé du joueur, ni en top, ni en flop, parce que j'avoue que pour moi, il était très invisible, et c'est peut-être bon signe dans ce sens où il a fait beaucoup de taf invisible. Qu'as-tu pensé d'Ugarte ce soir, justement, Adrias?
Ben, on l'a pas vu, mais il a forcément été très bon. Il a forcément participé au surnombre, à cette impression visuelle que tu avais, enfin, la première mi-temps. Je sais pas pour vous, mais moi, j'avais l'impression que chaque fois que je voyais un Lillois, je voyais trois Parisiens autour. On était en surnombre sur toutes les zones du terrain, et on sait qu'Ugarte, il a eu un rôle là-dessus. Après, il se prend un jaune qui est peut-être pas, enfin, si, il est peut-être important d'ailleurs, son jaune, parce qu'il coupe une action qui était intéressante. Donc, je pense qu'il était plutôt, mais il a été, oui, comme tu l'as dit, en fait, on l'a pas tellement vu. On a Ruiz qui a vraiment brillé. Et Ruiz, tu t'aperçois vraiment qu'il brille quand il sort. On a Asensio qui était aussi au milieu, plus dans la relation, qui était vraiment top. Et du coup, Ugarte, bah, c'était un peu le parent pauvre. Mais il a dû faire son match. Il a dû faire son match. Mais par contre, on n'a pas quand même eu cet Ugarte qu'on avait en début de saison, qui t'assurait des récupérations aux 60 mètres, etc. Celui-là, on ne l'a pas encore retrouvé. Maintenant, voilà, je pense qu'il a fait son match. Tu sais, bah, si je mettais des notes, je mettrais un 5,5, quoi, parce que c'est difficile de faire un avis plus précis.
Et hop, un commentaire banni, excuse-moi. Du coup, la prochaine question sera du coup pour Milan. Asensio, c'est le créatif qui nous manquait au milieu, j'ai l'impression. Titulaire avec Warren Zaïre-Emery ou Ugarte contre la Real, selon toi, tu vois qui, toi, du coup, au milieu titulaire contre la Real?
Je pense que c'est trop tôt pour pouvoir mettre justement Asensio peut-être au milieu de terrain titulaire contre la Real Sociedad, même si j'aime beaucoup ce qu'il a fait dans ce milieu de terrain dans ce match-là. Quand il est arrivé, je me suis dit que c'était ce joueur-là qui pourrait aussi on pourrait tenter au milieu de terrain. Ouais, moi, je me suis dit avec Luis Enrique, tentons tout. Enfin, il a déjà tenté numéro 9, alors que bah, c'est un ailier, pourquoi pas le tenter au milieu de terrain. Maintenant, voilà, c'est un match contre Lille, dans un match où Lille n'a pas fait leur meilleur match non plus. Hein. Voilà, ça a été un match compliqué pour eux. Donc, moi, je trouve ça intéressant de le retenter sur certains matchs, même si je pense que face à la Real Sociedad, ça va se jouer entre Fabian Ruiz, Ugarte, Zaïre-Emery. Bon, je pense que c'est forcément titulaire, et Vitinha. Mais pour l'instant, peut-être que ouais, Vitinha, je pense qu'il a un peu plus la confiance, peut-être pas Ugarte. Je pense que ouais, si on doit partir sur la Real Sociedad, moi, je préférerais voir Fabian Ruiz, Zaïre-Emery et Vitinha. Maintenant, Asensio, s'il veut tenter le pari, pour moi, ça peut passer, hein. Mais je pense que c'est trop tôt pour se dire on va le mettre mieux de terrain pour un match Ligue des Champions.
Alors, la dernière question sera générale, et cette fois, tout le monde aura le droit d'y répondre, donc je prends l'avant-dernière, vu que je suis le seul à ne pas avoir répondu. Cette question assez intéressante de Tariq, qu'est-ce qu'on pense de faire tourner autant avant la Ligue des Champions? Est-ce que c'est de la peur? Alors moi, je pense que pas du tout. T'as essayé justement d'instaurer un certain rythme entre certains de tes joueurs. Il fallait prendre en compte que Hakimi, par exemple, revenait de la CAN, donc qui allait un peu mollo avec lui, tu l'as fait rentrer en cours de match au lieu de le mettre titulaire pour qu'il ait du temps de jeu mais qu'il ne risque pas de blessure. D'ailleurs, on félicitera le PSG de n'avoir aucun blessé majeur à 4 jours de la Real Sociedad, ce qui est plutôt assez rare, parce qu'au final, les seuls absents, c'est des mecs qui étaient déjà absents depuis le début, comme Kimpembe et Nuno Mendes.
Surtout Dembélé et Hernandez. Voilà.
Je vois notamment Barcola qui a été remplaçant, je vois Mbappé remplaçant, Dembélé qui n'a pas joué tout le match, bonne gestion hein, lui aussi, Marquinhos qui n'a pas joué une seule minute, Hakimi qui a eu un temps de jeu bah, mesuré, tout comme Barcola. Et même Ruiz, qui, je pense, est sorti à la 60e, il me semble, bah, je pense que ça augure pour lui qu'il risque d'être titulaire contre la Real. Donc je me dis que c'est quand même plutôt une excellente gestion de la part de Luis Enrique plutôt que de la peur. Après, cependant, je peux entendre que tu sois assez sceptique, justement.
Il faut quand même qu'on avait un match 3 jours avant et qu'on aura un match 3 jours après. Et que donc, non,
exactement.
C'est une question de peur. C'est juste
ce que je te dis. Il y avait toute une gestion, une balance entre temps de jeu, rythme. Tu vois, et pour éviter les blessures, c'est ce que je dis. Il y avait une balance à respecter.
Surtout qu'après la Real Sociedad, il y a encore des gros matchs qui arrivent après.
Exactement. Alors justement, la dernière question cette fois, ne vous inquiétez pas, les généraux, vous aurez tous le droit d'y répondre cette fois. Et justement, on va faire par ordre des caméras. Est-ce qu'on a le droit de parler de Lenny Yoro?
On a le droit d'en parler. Après,
qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu en veux? Est-ce que tu n'en veux pas? Est-ce que
ah oui, moi je veux ce joueur. Moi je veux ce joueur. Après,
vas-y, t'as l'air chaud, Darius, commence.
Ah, pardon, c'était à soi. Non, vas-y.
Vous avez l'air lancé là, vas-y.
Non, pour moi, parler de Lenny Yoro, il n'y a pas forcément d'utilité. Ce n'est pas un joueur du Paris Saint-Germain, c'est un joueur du LOSC. Ça, c'est la chose à retenir pour le moment. Lorsqu'il avait fait son premier match à Lille-Paris Saint-Germain, tout le monde avait été un peu impressionné par sa bonne prestation et ça avait dit que bon, il a réussi son contrôle d'examen devant Luis Campos. Maintenant, pour le coup, est-ce qu'on verra potentiellement, ouais, parce que pour le coup, désormais, tu vas avoir tous les gros clubs européens qui vont commencer à lui faire la session séduction pour lui dire de revenir dans notre club ou non. Moi, la seule chose qu'il faut retenir, c'est que si on ne fait pas les Niro, c'est une faute professionnelle. Parce que j'ai vraiment l'impression que cette année, ces derniers temps, le Paris Saint-Germain a envie de canasser un peu tous les gros jeunes à fort potentiel de Ligue 1 après ce qui s'est passé avec Kamavinga notamment, ou avec Tchouaméni on va dire Matistel quand même si je pense pas qu'ils étaient dessus. Donc il faut pas rater les Niro, il faut absolument pas le rater. Ça fait encore une fois partie de cet excellent vivier en défense centrale dans notre pays. Donc pour moi, il faudra aller impérativement le bloquer. Et pas forcément en jouant. Moi, il faut faire un peu comme ce qu'avait fait le Borussia Dortmund lorsqu'ils avaient fait Julian Brandt, Thorgan Hazard. Ils avaient un peu ficelé leur mercato avant le mercato estival. Il faudra boucler, au moins avoir un accord avec les Niro dans les mois qui viennent et pas traîner, puisque sinon, on ne sait jamais, un Real Madrid qui vient toquer à ta porte, c'est très difficile de le refuser, sauf pour Kylian Mbappé. Lui, c'est son droit.
Pour répondre à Sanders, je préfère, moi tu me parles pas d'âge, je préfère largement avoir un Maïdan et Soura ce soir plutôt qu'avoir Laurent Paganelli et Antonetti qui eux sont plus âgés. Après tu te fais la vie que tu veux. Justement, Milan, qu'est-ce que t'as pensé toi de Lenny Yoro ce soir, ou même qu'est-ce que t'en penses tout court?
Bah, franchement, c'est un top joueur, voilà, ce qu'il fait à son âge, c'est énorme. En plus, bon, faut rappeler surtout que bon, on recrute beaucoup de joueurs de Jorge Mendes, donc on a envie de se dire pourquoi pas aller tenter Yoro, sachant qu'en plus de ça, je trouve que il peut jouer latéral. On l'a déjà vu jouer latéral dans une défense, notamment à droite. Donc je me dis que pour Luis Enrique, ça peut être un bon profil. Et franchement, quand tu vois ce qu'on a recruté avec Barcola, tu te dis si tu prends Yoro qui commence à s'installer comme titulaire et que il prend de la maturité et de l'expérience chez nous, on aura tout gagné encore une fois. Maintenant, après, oui, j'ai vu des commentaires qui me disent on manque d'expérience. Je pense que je peux être d'accord maintenant. Si on garde Danilo et qu'on garde Skriniar, je pense que l'expérience, on l'a en défense centrale et que Yoro, il n'y a pas de souci pour le prendre et il sera très bon, je pense, au Paris Saint-Germain. En plus, ça fait un Français de plus, donc on prend forcément.
Oh, cet argument, ouais. Ouais, ça, je m'en fous, mais à la limite, j'entends. Vas-y, Darius.
Moi ce soir je l'ai pas regardé parce que quand ça joue Paris, j'ai tendance à afficher Paris et du coup je vois pas forcément les détails de tous les trucs, mais bon, après l'essentiel a été dit. Pour moi, c'est un joueur qu'il faut prendre, et par rapport au message de Swapper, justement, j'ai envie de te dire, t'as loupé Vardiol, prends Yoro. Et l'autre chose que j'ai envie de te dire, c'est que Yoro, il a 2 ans de moins que Vardiol, et que Yoro, il connaît la Ligue 1, ça lui fait tout un tas d'avantages. Alors après, est-ce que je peux comparer les deux joueurs? C'est pas forcément le même profil, c'est pas forcément le même défenseur. Gvardiol est pour l'instant plus physique, Yoro doit encore s'étoffer. Ce serait trop tôt en fait pour les comparer. Mais en tout cas, central prometteur, Gvardiol, il est parti à City, c'est fini, il est loqué et tu le verras plus jamais. Quitte à, autant essayer de pas le louper le suivant, quoi.
Le truc, c'est que par rapport au prix. Ouais, enfin, ça c'est un peu facile de dire ça, parce que si on le fait à 80 millions et que dans 5 ans ça devient le meilleur au monde à son poste, tout le monde retournera sa veste. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les jeunes joueurs, Lenny Yoro, il partira pas à moins de 50 millions. Surtout au vu comment Lille s'est fait quand même pas mal d'argent avec certains joueurs de gros calibre, hein, que ce soit Victor Osimhen notamment, même s'il y a eu des bisbilles. Mais pour moi, un Lenny Yoro, 60 millions, faut foncer. 80, c'est vrai que ça peut faire cher, voire très cher, mais déjà c'est un Français Et il ne faut pas oublier que les nationalités, chez certains joueurs, ça peut faire augmenter le prix de façon assez exponentielle. Et pour le coup, tu as été capable de mettre à 90 millions sur Colomouani. Alors, il ne les valait pas, mais bon, c'est le marché qui veut ça. C'est un très jeune joueur. Il va être courtisé par de nombreux clubs européens. Un Tchouaméni, tu as mis 100 millions dessus et finalement, tu te rends compte que c'est quand même une plutôt bonne idée. Et pareil, si on prend Gvardiol et Lignoro, c'était deux joueurs à très très fort potentiel, même si Gvardiol avait plus d'expérience. Après, tu me diras, Lignoro à 17 ans, il a quand même pas mal de matchs aussi dans les jambes. Et c'est parti à un très gros prix aussi. Hein. Josko Gvardiol, même si c'était à Leipzig et que c'était un bon défenseur, tu as quand même mis 90 millions dessus. Et c'est pas rien de mettre autant d'argent sur un défenseur central. Pareil sur Wesley Fofana, pareil sur Virgil van Dijk, même si Virgil van Dijk, c'est autre chose. Mais pour moi, je pense que 60 millions, 70 millions, c'est peut-être assez cher, mais c'est le marché qui veut ça. Voilà, il y a 15 ans, il en aurait valu 30 et on aurait été content. Aujourd'hui, ça va être combien? C'est pareil. Et pareil pour Todibo, ça partira pour 40, 50, voire plus, parce qu'il était courtisé par Manchester United. Dieu merci, il a refusé et il a été intelligent. Mais ça va coûter aussi très, très cher, ce genre de défenseur, parce que c'est rare. Et bah, il faut absolument cadenasser son avenir. Parce que mine de rien, Marquinhos n'est plus tout jeune. Danilo n'est pas tout jeune non plus. Lucas Hernandez est dans la force de l'âge.
Et Soura,
Marquinhos n'est pas tout jeune. Merci beaucoup, Soura.
Marquinhos,
On se retrouve à 2 h du mat.
il est peut-être temps, il est peut-être temps, il est peut-être temps qu'il bouge aussi. Ça fait très longtemps qu'il est là. Il a été là de toutes les défaites. Il représente un petit peu l'ancien monde. Il représente ce monde où les joueurs étaient très proches de Nasser. On est en train de faire peau neuve. On est en train de faire peau neuve sur les stars. Et on est en train de faire peau neuve sur les stars de Nasser. On pourrait
Sur
les
le
appeler.
passé.
On a, voilà, c'est ça. Il y a un moment, il faut savoir passer à autre chose. Il incarne aussi quelque chose. Et voilà, enfin, tu vois, c'est pas seulement une question d'âge. Voilà, Marquinhos va penser.
Faut pas
Enfin,
parler
c'est un peu
d'âge.
dur, mais
Alors justement, j'avais un dernier commentaire que j'avais sélectionné justement. Coucou Igor. Eh bien écoute, c'est un super fond vert, c'est le vestiaire du PSG. N'hésite surtout pas à faire un maximum de dons pour qu'on améliore. Et non, concernant Yoro, pour dire mon petit mot dessus, c'est un jeune joueur à fort potentiel qui a l'expérience de la Ligue 1, sans même parler de français ou pas. Ça, je m'en fous au fond qu'un joueur soit français, même s'il faut un minimum de joueurs français pour les quotas Ligue des Champions. Remarque, tu me diras, je préfère avoir Yoro pour ses quotas que Kurzawa. Mais non, Yoro répond à des problématiques du PSG. On avait fait d'ailleurs une vidéo court format à ce sujet avec Basto il y a quelques mois maintenant, où on disait que justement, ben, parmi les qualités de Yoro, ben, il y a déjà sa qualité ballon au pied. On sait que Luis Enrique veut des défenseurs qui sont bons balle au pied, parce que si tu es bon défensivement, mais que techniquement tu es limité, ben, tu vas finir comme Skriniar, c'est-à-dire à la cave. Et d'un côté, en plus, ben, c'est quoi le point faible principal du Paris Saint-Germain? C'est les duels défensifs aériens. Et il se trouve que pour le coup, bah, Yoro fait partie des défenseurs les plus performants cette saison dans ce secteur de jeu. Et je me dis que justement, il a peut-être toutes les qualités pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Alors bien entendu, je ne veux pas qu'il rejoigne le Paris Saint-Germain à n'importe quel prix. C'est comme chaque joueur, il y a une limite à accepter. En revanche, si tu as la possibilité d'avoir ce joueur, bah, étant donné que Marquinhos est vieux, Soura, on se retrouve, je me dis que justement, avoir un joueur dans le même profil successeur et plus jeune, ben, ça rappelle un peu le recrutement de Marquinhos qu'on avait justement recruté à 19 ans, joueur avec du potentiel, de l'avenir, une certaine technique. Et je me dis qu'on serait assez inspiré de commencer à prendre un peu des dents, parce que finalement, on se dit que Skriniar n'est peut-être pas un défenseur adapté pour Luis Enrique, que Danilo ne sera pas éternel, que peut-être que Marquinhos a fait le tour au PSG sans même parler de son âge. Ça fait maintenant déjà 10 ans qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, enfin plus même. Donc il a peut-être besoin aussi d'aller autre part pour se confronter à autre chose. Donc je me dis que finalement, au vu
Il est
des
à Paris depuis
possibilités,
2013, tonton.
c'est ça.
Donc ça
C'est ça, c'est
fait
pour ça que j'ai
c'est
dit plus de 10 ans, ouais.
en 10e année.
Mais ouais, non, tu vois, en soi, justement, je me dis que il faut commencer un peu à prendre les devants. Tous les joueurs du monde ne sont pas accessibles pour le PSG. Il existe des joueurs qui ne sont pas PSG accessibles, malheureusement. Et je me dis que parmi ces joueurs qui sont PSG accessibles, Yoro, c'est quand même une très très bonne idée à faire. Et pour que la prochaine fois, je suis vraiment dans le thème, merci Swapper en tout cas. Oui, Beraldo Mukele en termes de jeunes, on va manquer d'expérience, pas forcément, mais ça, c'est un autre
Mukele
débat.
n'est pas
Pas
jeune.
forcément. Mais le truc, c'est
Oui.
que derrière, si on fait pas Euro, qu'un
Et
autre club
merci
le
Swapper.
fait et qu'il fait une bonne saison, tout le monde va dire oh, pourquoi le PSG n'a pas mis le prix, etc. Enfin, pour moi, il faut aller sur le Niro. Il y a quelque chose de très très fort à faire avec lui. Et pour moi, il ne faudra pas rater ce genre de jeune joueur. C'est pas comme si on ratait Quentin Merlin. Bon, c'est pas extrêmement grave de l'avoir raté, mais c'est quand même
Voilà, on est sur
dommage.
tous les coups.
Alors que là, si on rate un Leny Yoro, pour moi, c'est une faute professionnelle.
Non, mais surtout qu'au plus de ça, c'est pas le
Vas-y.
premier joueur qu'on rate. Faut quand même se rendre compte de la chose. Ligny-Hero, c'est quand même suivi par le Real Madrid. Les deux derniers Français qu'on suivait, qui ont été recrutés par le Real Madrid, c'est Camavinga et Tchouaméni. Voilà, on sait ce que ça donne aujourd'hui et je pense qu'il nous aurait fait du bien dans ce milieu de terrain au Paris Saint-Germain. Voilà, c'est la même chose qu'avec Barcola. Barcola, on le prend 50 millions parce que tu as Manchester City dessus. Sinon, on
Et
le prend
Chelsea.
moins cher. Et Chelsea, voilà. Si Euro, aujourd'hui, on parle de 80 millions. C'est parce qu'il y a le Real Madrid dessus et je suis sûr qu'il y a beaucoup plus de clubs
À
que le
l'Europe
Real
dessus.
Madrid. Ouais, c'est ça, il y a énormément de clubs sur
La
les numéros.
concurrence.
C'est 17 ans, c'est un joueur qui va t'apporter quelque chose défensivement et t'es obligé de aujourd'hui, voilà, on a mis 222 millions sur Neymar, on a mis 180 millions sur Mbappé à une époque. Bon, bah, 80 millions sur les Niro, maximum, je pense, voilà, je pense que c'est quand même énorme 80 millions, mais si on met maximum 80 millions sur les Niro, bah, pour moi, ça sera quelque chose de bien. Tu prends un jeune qui va grandir chez toi pendant longtemps. Et en plus, moi, je pense que voilà, le fait qu'il soit français, j'aime toujours parce qu'il va jouer en si s'il est bon, il jouera en équipe de France avec tous ses coéquipiers. Et je trouve ça, moi, je trouve franchement que ça soit c'est top quoi. Et sa maturité à son âge, elle est excellente.
Ben, moi, je trouve qu'Harry dit quelque chose de pertinent. 50 sur Euro, pour moi, c'est le bon prix. C'est ni trop cher, ni bradé de la part de Lille. Et il faut se rappeler que peut-être qu'il va prolonger ou non, et que forcément, ça va rentrer, en tout cas, dans les critères de son prix, sa prolongation.
Ouais,
Alors,
après, le
justement.
problème, c'est que si tu le Real Madrid met 60 millions, tu peux pas mettre que 50. Donc ça dépendra aussi de qui sera prêt à mettre combien sur ce mercato, quoi.
Et Soura, tu serais pas un ch'tio? Un ch'ti gamin? Non, apparemment, tu auras un léger accent du Nord qui te redonne, mais non, non,
Non,
absolument
c'est
pas.
très 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 solide ton imitation du Nord, tonton.
Non, je
Ouais.
ne suis malheureusement pas bon pour faire tous les accents. En tout cas, je trouve qu'on a fait un live plutôt constructif. C'était un débrief assez sympathique parmi ceux qu'on a fait cette saison. Il y a eu quand même des matchs où on s'est un peu plus ennuyé, où les matchs étaient vachement moins sympas à suivre. En tout cas, je vois qu'on est près de 485 en live ce soir. C'est quand même pas mal, ça faisait un petit moment. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé. Si on peut avoir la moitié des personnes présentes ce soir en live en like avant de partir, ce serait génial. Et surtout, ben, n'hésitez surtout pas à vous abonner avant de partir. Et n'oubliez pas, ici, c'est Paris.
Ciao tout le monde.
Ciao.